France Culture. Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Lors d'un passage à Paris, à l'occasion de la publication des lettres choisies de son père, Dimitri Nabokov était l'invité de Roger Vrigny dans l'émission Lettres ouvertes, le 18 mars 1992, où il sera question, entre autres, des traductions des romans de Vladimir Nabokov et bien sûr de quelques miroirs bleus, clairs et chatoyants. Des papillons, cela va sans dire.
J'ai essayé, avec Matthew Broccoli, de présenter une vision générale, équilibrée, si on peut ainsi dire, des rapports artistiques, professionnels, passionnels, avec ces grands hobbies, les papillons, les échecs, ouais. Et en même temps montrer un côté chaleureux et familial de mon père. Et c'était un homme qui a été jugé par ceux qui ne le connaissaient pas, surtout, comme homme froid, inapprochable, cynique. C'est pas du tout vrai. Pour moi, c'était le meilleur des copains, tout d'abord. C'était un homme qui m'a appris la boxe, le foot, le ski, le tennis, les échecs, la lecture, la nature. Même quand un roman bouillonnait dans sa tête, il voulait être laissé seul et tranquille pour écrire, pour vivre cette souffrance créative. Même pendant l'émigration, quand il s'est enfermé dans la salle de bain du petit appartement pour éviter le bruit provoqué par l'enfant de la maison, moi. Même pendant les périodes de la créativité plus intense, il ne lésinait jamais de temps pour jouer avec moi, pour me porter sur ses épaules quand j'étais petit dans les eaux de Juan-les-Pins, ou des mentons, pour jouer au sport, pour m'expliquer les choses, pour me faire connaître les arbres, les insectes.
C'était un guide pour vous. Vous avez eu vraiment un guide.
Un guide dans tous les sens, y compris le sens moral de la vie. Et je parle plus haut niveau, l'honnêteté absolue, l'honnêteté envers les autres et soi-même, et vers l'art. Le choix d'une expression originale, personnelle, quand on décrit quelque chose.
Oui, du reste, cela se voit à travers la correspondance. Il y a par exemple une des premières lettres du recueil à son frère. Son oui. frère qui lui proposait des poèmes, qui lui a fait lire des poèmes. La réponse de votre père est à la fois assez brutale, assez sévère, mais elle est merveilleuse. Ça fait penser tout à fait au conseil à un jeune poète, vous savez, de Rilke. Parce que la première chose qu'il lui dit, finalement, c'est de dire « Si tu ressens le besoin d'écrire des oui. poèmes, alors là, il faut en parler sérieusement. Si c'est simplement pour dire des fadaises à quelques belles filles, tu peux continuer, ça n'a aucune importance. Hein. » En gros, c'est ça. Hein. Et donc, il était très rigoureux là-dessus.
Absolument. Il disait en même temps, si tu peux... Si on reconnaît quelle partie d'une rime vient oui. après et quelle vient avant, c'est déjà faux.
C'est faux.
Ça doit être tout à fait spontané et naturel. Oui. Il faut jamais mettre un mot de plus pour remplir une ligne. Chaque mot doit être essentiel. L'économie artistique, oui. c'est la clé. Il a été brutalement sincère avec son frère, comme il a été avec moi, d'ailleurs. Oui. je l'ai beaucoup apprécié.
C'est vrai, oui. Oui, il était sévère, finalement. Il était sévère parce qu'il était exigeant. Mais cette exigence, elle s'exprimait également. Vous avez évoqué tout à l'heure des lettres professionnelles. Mais ça, on s'en doutait un peu, déjà, parce qu'on on connaissait les exigences de Nabokov sur la traduction, étant donné aussi sa grande connaissance des langues. Exact. Donc, il savait exactement la correspondance qu'il voulait obtenir dans telle ou telle traduction, hein, du russe par rapport à l'anglais, par rapport au français, etc.
C'est vrai. Et, bon, quand on arrive au chinois ou bien au turc, on est au merci des dieux oui. de chaque pays. Mais quand il pouvait, oui. quand il s'agissait d'une langue qu'il connaissait bien, le russe...
Le russe, parce qu'il y a certains romans anglais qui ont été traduits exact. En russe. Qui
lui-même, il s'est mis à l'abri...
Il nous a poussé des cris d'horreur.
Il s'est mis à l'abri des traducteurs soviétiques en traduisant Lolita et autres rivages. Il était en train d'envisager Ada quand il est mort. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. En ce qui concerne les autres langues, il a préféré ne pas s'en mêler, ne pas y penser, parce que c'était une entreprise sans espoir. Et dans les petits, même dans les petites lettres qu'ils adressaient à moi, ils disaient, il me faisait cadeau d'une partie de son génie en exprimant les choses les plus ordinaires et quotidiennes dans une façon tout à fait originale, avec un tout petit peu de sa poésie. Même une liste des choses à laver ou à acheter, par exemple. Il y avait une nuance d'humour dedans. Il m'a écrit, je ne sais pas.
Vous aviez un exemple
hein? Oui, par hasard. J'étais chanteur d'opéra maintenant.
Mais je vous donne que oui, du reste, c'est une question que je vais vous poser tout à l'heure.
Bon, on en repart. Maintenant, j'ai pas malheureusement de temps seulement pour quelques concerts, même si je chante tous les jours pour me tenir en bonne forme. Je partais pour la Colombie, pour Medellín. Avant que Medellín devienne fameux pour d'autres raisons pas très heureuses, pour chanter dans un festival international d'opéra. Il m'écrit, je cite une partie seulement de la lettre, « Si tu survoles la forêt tropicale de très haut, tu remarqueras peut-être des choses qui ressemblent à de petits miroirs bleu clair chatoyants, des papillons morphos qui volent au-dessus des arbres. Je t'aime, pas de duvet. Pas de duvet, ça, je dois expliquer.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a une petite expression russe, ni pucha ni pera, ou quelquefois ni pera ni pucha, pas de duvet et pas de plume. C'est un peu comme l'anglais break a leg, casse-toi une jambe, ou l'européen, très simplement, merde, quand un artiste va se produire sur scène, pour me souhaiter bonne chance.
Bonne chance, exactement. Voilà. Oui. Pas de duvet, alors. Voilà. Pas de duvet.
Pas de duvet.
Et alors, justement, vous avez évoqué votre carrière de chanteur, Dmitri Nabokov. Or, il se trouve que là, vous étiez peut-être, non pas en opposition, mais peut-être sur un terrain inconnu, pour votre père, parce que votre père a toujours manifesté une grande indifférence pour la musique, il me semble.
Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut affirmer que c'était un reflet de son âme, parce que chaque poète, surtout un poète si conscient de la musique d'une ligne de vers,
des mots, oui, bien sûr.
Doit avoir une oreille musicale. En plus, une de ses plus belles nouvelles... raconte l'histoire d'un musicien, Bachmann.
Oui.
C'est un peu un prédécesseur de Lougine. Comme Lougine devient fou à travers les échecs, Bachmann le fait à travers le piano. Donc, oui, il n'aimait pas surtout la musique qui le dérangeait. La musique des ascenseurs, des hôtels, des supermarchés. La musique qui ne voulait rien dire. Mais en même temps, il m'a avoué qu'il aimait, par exemple... les compositeurs qui ont respecté leurs librettistes et leurs auteurs, comme Bizet, qui a respecté Mérimée à la fin, comme Puccini, comme Moussorgsky.
Du reste, ça correspondait tout à fait à son état d'esprit.
Pas Tchaïkovski, qui a massacré le pauvre Onegin, par exemple, le pauvre Pushkin, avec son frère.
Mais ça correspondait du reste à l'état d'esprit de Nabokov, je veux dire par là que l'infini respect qu'on doit avoir pour la chose écrite, c'est un des dogmes de l'écrivain lui-même, Nabokov. Enfin, ce qui est écrit ne doit pas être... D'où la difficulté de la traduction.
Pour lui-même, qui a souffert pendant des années pour rendre Eugène Onegin dans une version vraiment exacte et précise, en faisant maintes sacrifices de beauté, de style, de rythme, il l'a avoué lui-même. Et ça a donné lieu à des grandes polémiques avec Wilson et d'autres, comme on sait bien. Oui. En même temps, quand il s'agissait, c'est intéressant, de la traduction de ses propres ouvrages, dont j'ai fait plusieurs, souvent en collaboration avec lui, après sa mort tout seul, et quand il s'agissait des langues qu'il connaissait pas tout seul aussi, il se permettait certaines libertés. Il avait carte blanche, naturellement, de ma part et de la part des autres traducteurs, de changer ses propres œuvres. Dans mon cas, il était particulièrement tranquille parce qu'il savait que mon amour propre de traducteur n'aurait pas souffert. Je le connaissais assez bien. Et je le fournissais. Ma tâche, c'était de lui fournir une version très précise, littérale, de ce que j'avais fait, et souvent avec des variantes. Dont il choisissait un, ou bien il trouvait une solution à lui. Mais souvent, dans la plupart des cas, ma version servait comme base. Et souvent, lui-même, comme c'est le cas dans Roi d'un ballet et dans d'autres ouvrages, il trouvait des choses qu'il avait écrites dans sa jeunesse, quelquefois maladroites, et il apportait des modifications, il ajoutait, il éliminait. Et en même temps que je disais des choses très importantes, il m'a dit, au sommet, ça j'avais déjà dit autrefois, mais c'est un souvenir très important, au sommet d'une montagne suisse, la ville de Manette, près de Gstaad, où nous avons chassé pour la dernière fois ensemble les papillons peu d'années avant sa mort. Et ce sont des discours qu'on trouve dans des romans plutôt que dans la vie, le discours entre père et fils à propos de l'art. Il m'a dit... je ne sais pas comment c'est commencé, qu'il avait atteint ce qu'il désirait dans la vie, qu'il s'était imaginé toujours comme grand écrivain, qui écrivait certaines choses et qu'il l'avait fait. Et en plus, il m'a expliqué que pour lui, l'écriture, le roman, le poème, c'était comme une pellicule non développée. Et la tâche de l'auteur, c'est un peu la manière de Schopenhauer de voir les choses, c'était de développer cette pellicule déjà existante.
C'était un extrait de Lettres ouvertes. Roger Vrigny recevait Dimitri Nabokov, fils de Vladimir Nabokov, à l'occasion de la publication chez Gallimard des Lettres choisies. C'était le 18 mars 1992, sur France Culture, une réalisation d'Olivier Coppin. Vous pourrez réécouter cet entretien en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.